Eliane Lafon, the queen of French photojournalism in New York. Quatrième épisode, à la manière d'Eliane. J'adorais aller dans les magazines. Eliane Lafon, qui n'est pas, selon ses termes, employée par Hubert Henrot à Gamma, mais développe son activité aux USA. Quand Gamma explose et donne naissance à Sigma, elle ne regrette qu'une chose, ne plus travailler avec Raymond Depardon. Chaque fois qu'elle va à Paris, elle apprend comment archiver et rencontre les photographes français qu'elle ne connaît pas. En même temps, elle commence à travailler avec les grands photographes américains, bousculés par les méthodes françaises. Adieu les assignments, les commandes, c'est l'époque de la spéculation. Et grâce à ce que Eliane appelle la féroce concurrence que se livrent Time et Newsweek, ça paye.
Il faut archiver ces photos. Donc on achète des files cabinet. Au début, je les mets par photographe, quoi. Puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette pas seulement par photographe, mais qu'il fallait que je mette par pays. Donc, je fais quelques voyages à Paris, je vois comment ils gèrent leurs archives, je rentre à New York, je fais avec donc Jim et Michel le même système d'archivage. Là, Jean-Pierre m'aide beaucoup parce que Jean-Pierre, entre ses reportages, c'est quelqu'un de très organisé. Moi, je suis extrêmement sociale. Je sortais tout le temps. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'adorais aller dans les magazines pour la mise en page, pour faire le magazine, etc. Mais aussi pour rencontrer des journalistes, rencontrer des photographes qui commencent à vouloir venir travailler avec moi, en me disant, mais mon Dieu, Gamma, beaucoup de succès, est-ce que tu... Donc si tu veux, au début, je ne représente que des photographes français, mais très rapidement, je me rends compte que je pourrais également présenter quelques photographes américains aussi. Donc j'en parle à Hubert. N'oublie pas qu'une chose, c'est que je ne suis pas employé. Hein. Je suis comme je veux. Hein. Je lui dis, parce qu'on avait des rapports quotidiens, hein. On s'appelait tous les jours au téléphone. Et aussi, je commence à développer une relation avec Monique, la femme d'Hubert, qui, au début, plus tard, elle fera que du people, elle fera que des gens, des célébrités, mais qui, au début, fait aussi beaucoup de news, de reportages. Et donc, je parle avec tous les deux, en quelque sorte. Et je m'entends très bien avec tous les deux, très très bien. Nos rapports étaient d'autant plus simples que, encore une fois, je ne suis pas employée. Je crois que ça a été déterminant pour notre relation. On ne s'est jamais gêné pour dire ce qu'on pensait l'un de l'autre. Parce qu'on a tous les deux des caractères explosifs. Monique est beaucoup plus calme, c'est une Russe, donc elle est beaucoup plus, comment je dirais, sociale, si tu veux. Hubert et moi, on est quand même des sauvages. Hein. À cette période-là, on est des sauvages. Mais on est des sauvages aussi sauvages l'un que l'autre. Hein. À aucun moment, il m'a donné d'ordre, et à aucun moment, et s'il m'avait donné un ordre, je l'aurais sans doute accepté. Mais simplement, si... correspondait à ce que je voulais faire. Donc on a vraiment des rapports volcaniques, mais formidables, vraiment formidables. Et malgré nos engueulades, on ne s'est jamais empêché de se parler tout le temps. Et c'était avant les emails, avant l'Internet, avant la seule communication, c'est le téléphone. Donc on se parle tous les jours. Je lui dis tous les jours ce que je fais, il dit toujours ce qu'il fait à l'agence, et j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui était l'énorme travailleuse, moi énorme travailleuse, très rigoureux, moi très rigoureuse, un homme très 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 bien dans ses baskets, si tu veux, très 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 clair dans ce qu'il veut faire de sa compagnie. Donc, je m'inspire aussi beaucoup de ce caractère un peu volcanique, comme mon frère, comme Michel Rey. Moi, je connais que des gens volcaniques. Je connais que des gens comme, tu vois, je connais que de... Donc, tout ça me plaît, je suis à l'aise. Je n'ai pas peur des conflits, je n'ai pas peur de gueuler, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, tu vois. Donc, c'est très bien, très bon.
Et quand tu viens à Paris, tu viens rue Auguste Vacry, alors, à l'époque.
Oui.
Et quelle impression ça te fait?
Je suis émerveillée, parce que moi, j'ai une toute petite agence. Et puis, les photographes débarquent très rarement chez moi. Tout d'un coup, rue Auguste de Bacry, les photographes rentrent, donc je commence à connaître les photographes. Je vais au laboratoire, je regarde les tirages, je vais voir les gens qui écrivent les textes. Moi, j'ai pas tout ça à New York. Hein. Moi, à New York, on a une agence de vente au début, et puis d'archivage, c'est tout, au début. Hein. Donc, à chaque fois que je vais à Paris, j'apprends quelque chose. Je me dis, tiens, parce que, si tu veux, les 30% que je fais avec l'argent va comporter mon salaire, mais surtout va me permettre de me développer. Tout mon développement de New York, c'est généré par les fameux 30%. Donc, tu t'imagines si j'ai gagné de l'argent pour... Donc je me suis fixé un salaire, mes employés ont des salaires, on a des assurances médicales, et tout le reste va pour développer. Donc d'abord je prends un appartement, un employé, deux employés, trois employés. Donc je fais faire de plus en plus d'argent pour développer tout ça. C'est pas comme si l'argent me venait de Paris, je suis jamais payé par Paris.
Et donc tu commences aussi à représenter des photographes américains ?
Oui, Jean-Pierre me présente à ses copains, si tu veux, parce que Jean-Pierre lui commence à faire... Jean-Pierre fait beaucoup de politique américaine, d'où le livre « Tumultueuse Amérique », si tu veux. Donc il me présente ses amis, les amis à la Maison Blanche. Donc je rencontre les grands photographes, Eddie Adams, Dirk Alstead, David Kennerley. Je rencontre les grands photographes avec lesquels je vais nouer des rapports d'amitié, des gens qui ont beaucoup d'admiration pour ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier, les photographes américains ont beaucoup appris des agences françaises. Ils ont beaucoup appris de Gamma et de Sigma. Après, beaucoup, 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 beaucoup. Ils nous voyaient travailler avec beaucoup d'admiration. D'abord, pourquoi ? On partait sur le terrain sans demander la permission. On était donc des journalistes, pas simplement des photographes. On trouvait donc nos histoires. Ensuite, on avait un réseau de distribution qui faisait que même si un magazine ne voulait pas, on vendait ailleurs. On avait un réseau de distribution global. Tout ça, c'était merveilleux pour eux.
Hein. Tu n'avais pas de réelle concurrence à cette époque ?
La concurrence est arrivée rapidement. Pourquoi ? L'histoire, je te raconte, c'est de 69 à 73. En 73, donc pendant 4 ans, je peux pratiquement dire que non, je n'ai pas de concurrence. Parce que Magnum et Blacksart ne sont pas des concurrents. Entre-temps, je suis devenue très amie avec, évidemment, les gens de Magnum, bien sûr, mais aussi beaucoup avec le directeur de l'agence Blackstar, qui est un gentleman de chez les gentlemen, Howard Chapnick, qui également avait beaucoup d'admiration pour nous et qui commence d'ailleurs à s'inspirer de nous. Parce qu'au début, lui, il a des photographes qui travaillent en commande. Puis très rapidement, il se rend compte que la commande, il en a de moins en moins. Pourquoi ? J'occupe les pages avec des photos sans commande. Donc ça lui fait un électrochoc aussi un peu. Hein. Donc on a beaucoup appris. Hein. On a beaucoup appris aux autres agences de l'époque. D'où vient la concurrence ? La concurrence, elle vient en 73. L'explosion à Paris est 72. 73.
Oui, alors, cette explosion à Paris, tu la vois comment de New York ?
Alors pour moi, je la vois d'une façon extrêmement simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, n'oublie pas que pratiquement, mon seul counterpart, la personne avec qui je parle tous les matins, c'est Hubert et Monique. Mais ensuite, il y a une raison beaucoup plus profonde. C'est que Jean-Pierre était à l'école de Vevey. C'est Hubert qui a demandé à Jean-Pierre d'être leur correspondant. C'est Hubert qui m'a demandé de développer Gamma. Donc, Jean-Pierre, c'est Monsieur Loyal. Hein. C'est absolument Monsieur Loyal. Jamais Jean-Pierre ne serait parti avec quelqu'un d'autre qu'Hubert. Pourquoi ? Hubert a représenté pour Jean-Pierre quelqu'un de très important. Pour la première fois, quelqu'un paye Jean-Pierre. Sam Levin le payait très mal. Après, reporter associé ne lui a jamais payé. Tout d'un coup, avec Hubert en route, il est avec quelqu'un. Il a la vente de ses photos tous les mois par un relevé. Jean-Pierre, ça ne lui est jamais arrivé, ça. Il le voit pour la première fois. Donc, il a beaucoup de respect pour l'organisation et pour l'honnêteté d'Hubert. Il y a beaucoup de crooks à cette période. Hein. Il y a beaucoup de crooks. Hubert n'en est pas un, n'en a jamais été un, n'en sera jamais un. Hein. Hubert, c'est monsieur propre, hein, vraiment. Et non seulement monsieur propre, mais monsieur organisé. Les relevés, tout ça, ça plaît beaucoup à Jean-Pierre. Donc, quand les photographes de Paris appellent Jean-Pierre pour lui expliquer ce qui se passe, Jean-Pierre va évidemment immédiatement à Paris. Mais pour lui, il n'est pas question d'autre chose que de suivre Hubert. Et on ne connaît pas trop les autres. Alors, si tu veux, moi j'ai une douleur terrible. Hein. Tout d'un coup, je ne vais plus travailler avec Raymond Depardon. Je me suis beaucoup attachée, entre-temps, je me suis beaucoup attachée à Raymond, pas tellement au personnage qui est timide, qui n'est pas encore le Raymond qu'il est maintenant, mais je me suis beaucoup attachée à sa photographie. Parce que pendant tout ce temps-là, pendant que je vends les photos, etc., j'apprends aussi la photographie. Je lis des livres sur la photographie, j'apprends l'histoire de la photographie, j'apprends les différents styles de photographie, j'apprends ce que c'est que le photojournalisme, je vois les styles de chacun, donc j'apprends moi aussi. Et je m'étais énormément attachée au travail de Raymond, énormément. Donc j'ai dit, Ma première réaction, quand il est raconté à Raymond, d'ailleurs ça l'a beaucoup fait rigoler, quand il y a eu le ah mais je ne travaillerai plus avec Raymond. Donc c'était ma première réaction. Mais pour nous, avec Jean-Pierre, on n'a eu aucune hésitation. Donc leurs histoires à Paris, à la limite même, je vais te dire, ça m'a pas autant touchée que les gens ont été à Paris. Pourquoi ? Hubert et Monique vont recommencer à refaire tout de suite quelque chose. Mais qu'est-ce qui a changé ? Quelle c'est la chose qu'on a fait complètement différemment ? C'est que, très rapidement, Raymond, comprenant que je vais partir donc avec Jean-Pierre et Hubert, dit, mais il faut que quelqu'un reprenne l'agence de Gamma aux États-Unis. Parce que c'était un pont d'or, hein, pas oublié. Et il envoie quelqu'un qui s'appelle Robert Pledge. Robert Pledge, que je connaissais par Zoom. Hein, Pledge venait régulièrement à New York, il regardait les portfolios des photographes, et il était dans Zoom, qui était un magazine que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui a été complètement différent de Paris ? Il m'a semblé absolument évident que les photos que j'avais dans mes archives, les photographes, je sais qu'il y a eu l'histoire, les duplis, les tirages, qui payait le tirage, qui avait fait quoi, qui appartenait à quoi, je m'en fiche. Une histoire qui est signée Raymond Depardon doit aller à Gamma. C'est évident pour moi. Donc le passage entre Eliane Lafont et Robert Pledge, et d'ailleurs j'en tire beaucoup de fierté maintenant. Quand je regarde en arrière, heureusement que je ne me suis pas mis dans leur histoire de qui allait quoi. D'abord, je ne l'aurais jamais fait. C'est contre ma nature. Raymond avait pris ses photos. Même si Gamma avait tiré les tirages, je m'en fichais, les photos de Raymond. Donc j'ai dit à Pledge, tu viens tous les soirs me voir, tous les jours tu viens me voir. Nous ouvrons nos tiroirs ensemble et tu repars avec les photos de tes photographes. Donc dis-moi les photographes qui restent à Gamma, je le saurai de toute façon, et je leur rends les tirages. Et ça, ça n'a pas été aimé par Paris, hein, parce qu'il y avait tout à qui vont les tirages. Mais pour moi, ça m'était égal. Les tirages allaient aux photographes. Donc Pledge s'est retrouvé du jour au lendemain avec des photos archivées, des photographes qu'il allait représenter. Donc je lui ai fait un très beau cadeau, là. Je lui ai fait un très très beau cadeau.
Mais aujourd'hui, on n'arrive pas bien à comprendre la raison de ce clash. Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus ?
Écoute, voilà ce que... Peut-être il y a 10 ans, j'aurais dit autre chose, il y a 15 ans, autre chose, mais le temps fait bien les choses. Qu'est-ce qui me semble essentiel ? Quand je regarde en arrière, qu'est-ce qui me semble essentiel ? Hubert est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Il a la majorité des parts. Il a la décision finale. Mais des gens comme Raymond, même timide, même, tu sais, Raymond, quand je l'ai connu, moi, il regardait ses pieds, hein, il regardait ses chaussures. Quand il parlait, il ne te regardait jamais en face. Ça faisait partie de son charme, d'ailleurs. Quelqu'un d'à la fois féroce sur le terrain et extrêmement effacé. J'aime ça. J'aime cette espèce d'idée du photographe comme une mouche sur un mur qui regarde le monde, mais on ne la regarde pas. Donc j'aimais ce type de photographe. Mais ça n'empêche pas que lui aussi avait des ambitions personnelles. Est-ce que la personnalité d'Hubert... Je ne veux pas refaire l'histoire, mais est-ce que tous ces gens-là voulaient pas être d'égo à égo, voulaient pas un patron ? Voilà pourquoi, c'est comme ça que j'ai interprété leur magnum. Voilà comment j'ai interprété. Je n'ai jamais pensé que Raymond, en directeur de Gamma, ça marcherait. Ça m'a semblé vraiment impossible. Donc, quand il est allé à Magnum, ça m'a confirmé dans mon idée que, en fait, c'est ce type d'agence qui convenait d'ailleurs à beaucoup de photographes, une espèce de coopérative où, en fait, chacun avait la voix, avait la même importance. Hubert, quelque part, est un homme d'affaires et un homme de photo, comment dire, un peu à l'ancienne, qui voulait être le patron. Mais ces gens-là, ils ne voulaient pas de patron. Moi, je n'avais pas ce problème avec Hubert, il n'était pas mon patron. Donc, je le comprenais. Je n'y participais pas parce que moi, c'était pas mon patron. Mais je les comprenais. Moi-même, j'aurais probablement pas accepté un patron. Donc voilà comment je vois les choses. Je vois les choses, en fait, chacun avait une personnalité et chacun, finalement, racontait son histoire selon leur personnalité. Raymond, c'est évident que c'est un indépendant, même s'il est un magnum. Attention à la photographie, c'est comme la peinture, c'est comme toute l'histoire de l'art, c'est un art qui évolue, bien que Jean-Pierre serait là, il ne voudrait pas que j'utilise le mot art. Mais l'histoire de l'art montre que l'art évolue, la photographie aussi évolue, la photographie change. Est-ce que Raymond voulait faire des photos comme il le faisait au début à Gamma? Non. Pourquoi? Pas parce qu'il était contre Gamma, mais parce que sa photographie évolue. Et il se retrouvait probablement plus dans des photographes comme Bruno Barbet, Joseph Koudelka, tu vois. Donc il voulait appartenir à ce monde. Donc voilà comment j'interprète la séparation. Je l'interprète comme une volonté profonde de vivre sa propre expérience et de ne pas être sous le patronage de quelqu'un qui te fait vivre une vie d'entreprise.
Oui, tout à fait, ça me paraît très juste. Et tu avais des relations avec Floris de Bonneville ?
Je n'en avais aucune. Je savais qu'il était un rédacteur en chef que Hubert appréciait énormément, mais moi je ne voulais travailler qu'en direct. Dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, dans toutes les compagnies où j'ai travaillé, par la suite même avec Hachette, je ne veux travailler qu'avec la personne qui m'engage, car j'estime qu'elle m'engage pour certaines raisons, et je veux que ces raisons-là soient respectées. Donc je n'ai jamais travaillé avec Floris, je n'ai jamais travaillé avec Henri Bureau quand il était rédacteur en chef. J'ai travaillé avec Hubert, j'ai travaillé avec Monique. Donc non, je connais pas Floris de Bonneville. Je savais que c'était un très bon rédacteur en chef, apprécié de ses photographes, dont Raymond d'ailleurs. Raymond aimait beaucoup Floris de Bonneville, aimait beaucoup, il trouve que c'est un rédacteur en chef magnifique. D'ailleurs, Hubert disait que sur la place de Paris à l'époque, Floris de Bonneville était le meilleur rédacteur en chef.
Donc il y a cette crise, les photographes de Gamma, en gros, presque tous, puisqu'il reste à Gamma que Hugues Vassal, Raymond Depardon, et je crois que c'est tout, à peu près tout dans les staffs en tout cas, mais tous les photographes donc partent avec Hubert. Bon, ou est-ce que c'est Hubert qui part avec tous les photographes ?
Alors ça, je serais incapable de te le dire. Pourquoi ? Parce que je ne viens pas à Paris. Je ne viens pas à Paris. Pourquoi je ne viens pas à Paris ? Parce que j'estime, un, c'est leur histoire, et deuxièmement, moi, je dois régler mes Américains. Je comprends que je vais avoir de la concurrence. Donc qu'est-ce que je fais ? J'appelle tous mes clients, je vais les voir, et je dis qu'en fait, très peu de choses a changé, seul, le nom va changer. On ne va plus s'appeler Gamma, on va s'appeler Sigma. Et que quelqu'un partiront, mais moi je suis la même, mes photographes en majorité sont les mêmes, et je veux qu'on travaille, qu'on continue de la même façon. Donc je ne viens pas à Paris, je n'ai jamais participé à ces meetings à Paris, jamais, jamais. Et ça ne m'intéressait pas tellement non plus. J'estimais que c'était une histoire franco-française. N'oublie pas que moi à l'époque, en 73, je commence à avoir des photographes américains aussi. Donc eux aussi je dois les gérer. À eux aussi je dois raconter l'histoire, Gamma, Sigma, la séparation. Mais elle est très légère, la séparation. Pour moi, elle est vue très légèrement. Et d'ailleurs, les seules vraiment discussions que je me souviens avoir, c'est avoir avec mes clients en disant « Je ne m'appelle plus Gamma, je m'appelle Sigma ». Et d'ailleurs, immédiatement, on prend toutes les photos qui nous restent et je les fais tamponner Sigma. Et je donne les autres à Pledge. Donc, je n'ai vraiment pas souffert de la séparation.
Et donc, bon, Sigma continue l'histoire de...
On continue avec un concurrent. Oui. Et quel concurrent ? Un concurrent qui a le nom prestigieux de Gamma. Parce que je l'ai bien installé, le nom de Gamma. Il est drôlement installé. Drôlement installé. Il va me falloir, pas avec Time et Newsweek, mais entre-temps, j'ai développé énormément de clients. Je commence à avoir beaucoup de clients. Donc, il faut expliquer aux gens qui sont dans l'Arkansas, au Texas, etc. Il faut aussi que j'aille les voir pour leur expliquer Gamma, Sigma, pourquoi je m'appelle Sigma. Donc, il y a une concurrence, c'est Gamma. Et une bonne concurrence, pourquoi ? Parce que Pledge est un garçon intelligent qui, avec Raymond. Raymond n'est pas connu tellement aux États-Unis, sauf moi qui l'ai fait connaître comme photographe. Mais Raymond, comme rédacteur, comme directeur de Gamma, les Américains s'en fichent complètement. Ça leur égale. Qu'est-ce qui les intéresse, eux ? C'est la partie américaine qui va continuer de travailler avec eux. Donc tu vois, pour eux, Pledge leur amène des nouveaux photographes, Gamma prend des nouveaux photographes, donc Pledge amène de nouveaux photographes, donc concurrence. Voilà ma première vraie concurrence. Gamma en 73.
Et là, la concurrence va être féroce quand même.
Oui, elle est féroce, bien sûr. Elle est féroce, mais il y a encore beaucoup d'argent dans le marché. Hein. Il y a encore beaucoup d'argent. Il y a encore deux magazines, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a encore cette fameuse compétition entre Time et Newsweek féroce. féroce, car Et Time et Newsweek étaient des féroces compétiteurs, féroces.
Raconte-moi un petit peu comment ça se développe, parce qu'après tu fais un développement avec Sigma considérable quand même, les chiffres d'affaires sont...
Ils sont assez considérables. Je n'ai jamais eu l'intention, depuis le début, de faire une petite agence dans mon appartement. Pourquoi ? J'aime tout en photographie, j'aime pas seulement le news, j'aime le people, j'aime la science, j'aime le magazine, j'aime même, je vais t'étonner, j'aime même le paparazzi. J'adore les paparazzi. En fait, pendant très longtemps, j'ai essayé d'avoir avec nous ce grand photographe paparazzi qui s'appelait Ron Galella, et qui est encore mon ami au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. J'adore les paparazzi. J'aime tous les types de photographie. J'aime les... Comment est-ce qu'on appelle ça, l'investigation. J'adore l'investigation. Donc, au fur et à mesure, si tu veux, j'ouvre les départements. Un peu poussé aussi par ce qui se passe à Paris. Paris, la seule chose que je n'ai pas développée comme Hubert, c'est l'illustration. Ça ne m'intéressait pas, l'illustration. Mais le people que je développe avec Monique. Alors, le développement de Sigma s'est passé assez rapidement, d'ailleurs, parce que j'étais très intéressée par toutes sortes d'aspects d'une agence photo. Et en particulier, j'aimais beaucoup le people, et j'aimais beaucoup même le paparazzi d'ailleurs, qui est évidemment incompatible avec le people que avait commencé et voulait et avait instauré Monique, et que je respectais beaucoup d'ailleurs. Car ce qui s'est passé avec Monique et le people, c'est que Monique avait travaillé avec des célébrités, travaillé en direct. Elle était même venue à Los Angeles et avait rencontré la première correspondante qui sera la première correspondante de Sigma à l'époque, qui s'appelait Marisa Maslansky. Et depuis le début, d'ailleurs, les choses étaient très claires par rapport aux people. Moi, j'apprenais, hein. J'ai appris beaucoup de Monique. C'était les rapports privilégiés que nous avions avec les stars. D'autant plus facilité que Marisa, elle-même, avait un mari qui était publiciste, donc il connaissait également beaucoup de stars. Donc, il a toujours été entendu que nous ferions du beau people et pas paparazzi. Voilà pourquoi je n'ai jamais vraiment eu de paparazzi aux États-Unis, bien que j'aime beaucoup, beaucoup les paparazzi. Alors, donc la première chose que j'ai développée aux États-Unis, en dehors du news, c'était le people. Monique arrive, je la retrouve à Los Angeles, on ouvre le bureau de Los Angeles, qui... Il ne faut pas oublier qu'on est les premiers partout. Hein. On a été les premiers aussi à Los Angeles, on est les premiers dans le people. Et tout ça, ça marche très vite. C'était une période d'autant plus facilitée qu'à l'époque, les grands tas n'avaient pas de publiciste. On travaillait en direct avec elles. Donc les rapports étaient beaucoup plus simples. On faisait des photos, la plupart du temps d'ailleurs elle ne voulait pas voir les photos, corriger les photos, retoucher les photos, tout ça c'est beaucoup beaucoup plus tard. Au début on n'est absolument pas question et jamais question d'ailleurs, et tout se passe très très bien. Donc notre département people se développe très bien.
C'est à la fin des années 70 que ça commence à, qu'il commence à y avoir un contrôle un peu.
Plutôt, je dirais, les années 80. C'est dans les années 80, on avait commencé à apercevoir un ou deux publicistes arriver. Mais en général, on se mettait suffisamment copains avec eux, et ce qu'on représentait pour eux, c'est-à-dire une distribution des photos globales dans le monde international, les intéressait beaucoup, beaucoup. Donc, si tu veux, il y a eu deux arrivées de publicistes. Dans les années 70, des publicistes qui, la plupart du temps, étaient nos amis. Ils travaillaient beaucoup avec Monique quand elle venait à Paris, à Cannes, travaillaient beaucoup avec moi à New York. Pourquoi ? Parce que quand j'assurais à ces publicistes que leur star aurait la couverture ou une double page dans Time Magazine, c'est nous qui avons inventé tout ça. Hein. Time et Newsweek ne faisaient pas les célébrités en direct. C'est arrivé après. Hein. Nous faisions beaucoup les célébrités pour elles. Donc non seulement nous occupions les pages news, les pages internationales, mais très rapidement les pages nationales aussi. Pourquoi ? Moi j'ai développé mes propres photographes américains, avec des grands photographes américains, qui très souvent d'ailleurs... Certains travaillaient pour Time et Newsweek, mais pas en staff. Ils étaient sous contrat. Donc, ils pouvaient travailler avec moi. Bon, je n'avais pas le droit de revendre leurs photos s'ils travaillaient pour Time et Newsweek, mais je pouvais vendre leurs photos. D'ailleurs, très souvent, je vendais des photographes de Time Magazine à Time Magazine. Je leur revendais leurs photos parce que je leur faisais faire d'autres choses. Au début, si tu veux, l'ascension de Sigma a été... D'abord, nous inondions, mais littéralement, nous occupions toutes les pages internationales, mais très rapidement également, les pages nationales aussi. Pourquoi ? J'avais développé plein de photographes à travers les États-Unis, dans les États. J'ai pris des photographes à Los Angeles, à Boston, à San Francisco, dans toutes les grandes villes. J'avais pris des photographes locaux, mais des grands noms. C'était encore l'époque où ça ne dérangeait pas les magazines de payer les frais de photographe. Je n'avais pas vraiment besoin de trouver un photographe local pour que le magazine le fasse travailler. Quand un photographe, à l'époque, dans les années 70, quand un magazine voulait un photographe, où qu'il soit dans le monde, il l'envoyait. Ce qui était d'ailleurs une révélation pour les photographes parisiens. Un photographe comme Bureau, par exemple, a travaillé très rapidement John Dionia, qui était tombé sous le charme d'Henri Bureau. Et quoi que ce soit que fasse Henri, John Durniac lui payait ses frais pour aller ailleurs pour qu'il fasse telle ou telle histoire. Donc là, commençaient les assignments des magazines américains pour les photographes français, que j'avais énormément développé, les photographes en commande. Autrement dit, non seulement nous fournissions du travail en spéculation, mais en plus de ça, sur un sujet particulier d'un magazine comme Time ou Newsweek, Life, etc., le magazine américain qui, entre-temps, s'était attaché à ce photographe français ou italien ou espagnol, l'envoyait, Jean-Pierre par exemple, bien que basé à New York, les Américains l'envoyaient très souvent. L'histoire du Vietnam, par exemple, je raconte toujours que Time Magazine envoyait Eddie Adams, mais ils envoyaient également Lafon, parce que ils avaient remarqué le différent style de la photographie. Et donc, ils voulaient un style européen, la française, percevoir les photos d'une autre façon, culturelle, artistique, etc. Donc, très rapidement, nos photographes, bien que continuant à travailler en spéculation, commençaient en travail, en assignment pour les magazines. Et de la même façon, mes photographes américains commençaient également à travailler également en assignment pour les magazines américains. Donc, si tu veux, après avoir développé beaucoup cette politique internationale, nous avons développé les commandes et le travail, même en spéculation, pour le national, et avec poussé et sous l'influence de Monique, le People. Donc, on commençait vraiment à avoir une distribution qui s'ouvrait. Hein. Par exemple, Baxter Magnum ne faisait pas du People, vraiment. Donc, on était la seule agence de nouveau à offrir une telle diversité.
Ces podcasts ont été enregistrés par Michel Puech le 26 septembre 2018 à Issy-les-Moulineaux et le montage mixage est de Jean-Louis Vinet. Retrouvez tous les articles d'À l'œil sur Eliane Lafon et Jean-Pierre Lafon sur le site À l'œil www.a-l-oeil.info au singulier. Et puis vous pouvez écouter sur France Culture la magnifique émission de Aurélie Charron, L'expérience, qui raconte le raid de la Patagonie à l'Alaska avec Eliane Lafon et ses copines. Vous pouvez également écouter, regarder, lire Génération Gamma, le feuilleton des créateurs de l'agence que nous avons déjà diffusé. À bientôt !